Et la lune, elle reflète notre début de gueule de bois. L'impression que le temps s'arrête, on oublie le corps et sa loi. C'est l'heure de mettre à nu la pudeur, déshabiller la nuit entière et d'observer son livre ouvert. Il y a des fenêtres allumées, des veilleuses pour les petits yeux, des balcons ensommeillés, des traces d'amiante dans les cheveux, insomnie, subie ou désirée.
Il est 5h en temps universel, 7h ici à Paris.
Clotilde Dumay.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le début de ces 3 heures d'information internationale. On entame une nouvelle semaine et donc aussi de nouvelles séries sur RFI. On va par exemple s'intéresser cette semaine aux différents détroits à travers le monde, à leur importance stratégique, comme on peut d'ailleurs le constater depuis plusieurs mois avec le détroit d'Ormuz. Mais tout d'abord, le journal international. Bonjour Fabrice Le Grier.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Et l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes sur la bande de Gaza hier.
On semble donc encore loin de l'accord avec le Hamas annoncé par Donald Trump en fin de semaine dernière. Au moins 13 personnes ont été tuées hier. Des bombardements et une situation dramatique dans l'enclave palestinienne. Illustration dans un instant avec un témoignage rare recueilli à Gaza.
Dans ce journal également, la crise migratoire à Ceuta.
L'association marocaine des droits humains parle de près de 130 victimes et de dizaines de disparus qui faisaient partie des milliers de personnes qui ont tenté de rejoindre l'enclave espagnole en territoire marocain. Association qui réclame l'ouverture d'une enquête indépendante. Nous écouterons l'un de ses membres.
Et puis du mieux sur le front des incendies en France.
C'est le cas dans le Var, dans l'Aude et dans le département de la Gironde où la quasi-totalité des habitants et touristes évacués vont pouvoir regagner leur domicile ou leur lieu de séjour. Les flammes ne progressent plus mais des dizaines de pompiers restent mobilisés. Eux qui sont épuisés physiquement et moralement. Reportages et témoignages dans ce journal. Nous serons aussi au Brésil où Lula vient d'être officiellement investi en vue de la présidentielle d'octobre.
Au moins 13 morts hier dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, 152 rien que pour le mois de juillet.
Et c'est le bilan mensuel le plus élevé depuis le début de l'année, selon le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne et de nouvelles victimes. Donc hier, Israël poursuit ses offensives. Malgré l'accord annoncé par Donald Trump jeudi dernier, le texte prévoit un désarmement du Hamas, ainsi que le retrait et la fin des opérations de l'armée israélienne, accord confirmé par le Hamas, tandis qu'Israël n'a pas réagi officiellement. Des bombardements et une situation humanitaire intenable pour les Palestiniens. Illustration avec ce témoignage rare, celui de Ziyad Medouk, chef du département français de l'université Al-Aqsa de Gaza.
La situation est toujours tragique et dramatique dans la bande de Gaza avec la poursuite des bombardements intensifs. Donc les Palestiniens de Gaza, ils souffrent au quotidien en plus de bombardements. Il y a la situation humanitaire parce que l'aide humanitaire est toujours limitée. Il n'y a pas beaucoup de produits alimentaires comme les fruits, les légumes, la viande. Le gaz ne passe pas, les carburants, les médicaments. Donc il y a beaucoup de pénuries. Deuxième difficulté, la pénurie de l'eau potable. Donc avec l'été, la chaleur, la quantité est très limitée. Moi, personnellement, j'ai le droit de 20 litres tous les 3 jours. Donc les citernes d'eau qui passent dans le quartier et qui vendent de l'eau très chère. Donc situation dramatique, sans oublier l'absence de perspective. Les Palestiniens attendent, ils s'accrochent à n'importe quel événement, à n'importe quel espoir. On espère une amélioration, un changement rapide pour les Palestiniens de Gaza.
Témoignage à Gaza recueilli par Muriel Paradon.
Dans l'actualité également, Donald Trump qui annonce une reprise des pourparlers avec l'Iran.
Dès ce lundi, selon le président américain, énième annonce du locataire de la Maison-Blanche, alors que pour le moment, ni Téhéran ni les pays médiateurs dans ce conflit n'ont confirmé la tenue de nouvelles discussions.
Le bilan de la crise migratoire à Ceuta continue, lui, de s'alourdir.
D'après Madrid, au moins 72 personnes ont trouvé la mort en tentant de rejoindre l'enclave espagnole en territoire marocain en fin de semaine dernière. Le Maroc, lui, fait état de 11 décès, tandis que la MDH, l'association marocaine des droits humains, évoque près de 130 victimes et de dizaines de disparus et réclame l'ouverture d'une enquête indépendante. Elle dénonce le silence des autorités et demande comment un tel afflux a pu se produire sans qu'elles en aient eu connaissance. Pour Saïd Tzbel, membre de la MDH, ce mouvement n'est pas apparu tout seul.
Il faut qu'il y ait une enquête indépendante du côté espagnol que du côté européen, parce que cette affaire n'est pas seulement une affaire de passage individuel, etc., mais beaucoup plus, c'est une traversée de masse de population de jeunes qui ne dépassent pas 25 ans, qui sont des des universitaires, des jeunes, de façon de tout le pays du Maroc, et qui ont risqué leur vie. Certains sont morts, il y a même des familles avec leurs enfants. Et là, ils doivent nous donner des explications. Comment ils sont arrivés à 800 kilomètres de la côte de Fnédak? Sont arrivés à 800 kilomètres. Comment se fait-il qu'ils sont passés par tous les barrages? Même le TGV qui est le train le plus cher qu'on vient de mettre en place, les jeunes arrivent par TGV. C'est-à-dire que l'information a vraiment, vraiment quelque part circulé, aidé par un certain nombre d'agents autoritaires pour dire aux gens, ah là, c'est, allez-y, les gens sont en train de partir. Et tu sais, l'effet de foule, il est là, hein, et il est grand. Donc là, ils doivent s'expliquer sur ça.
Des propos recueillis par Christina Okello. L'association demande également des comptes à l'Espagne sur le renvoi de mineurs vers le Maroc, estimant que chaque situation aurait dû être examinée au cas par cas. D'après Madrid, la quasi-totalité des quelques 60 000 personnes qui avaient franchi illégalement la frontière ont été renvoyées vers le Maroc. Les ministres de l'Intérieur de l'UE se réuniront demain matin pour évoquer ces événements.
C'est une absence qui suscite de nombreuses interrogations au Cameroun.
Celle de Paul Biya, le chef de l'État âgé de 93 ans, a quitté le pays depuis plus de 2 mois, et déclaration hier en exclusivité au micro de RFI du ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement. Le président est en vie, il n'y a aucune vacance du pouvoir, son retour est imminent. C'est la première fois que le gouvernement s'exprimait dans la presse. René Emmanuel Sadi, qui sera notre grand invité Afrique ce matin à 5h47 et 6h46 TU.
La Grèce, toujours confrontée à de gigantesques incendies ce matin.
En une semaine, ce sont plus de 12 000 hectares de forêts et de terres agricoles qui ont été ravagés par les flammes, et les prochaines heures s'annoncent extrêmement difficiles en raison notamment des vents violents. La Grèce, où 2 pompiers sont morts hier dans la collision entre 2 hélicoptères qui luttaient contre le brasier. La Grèce, où nous appellerons notre correspondant dans le journal de 6h TU. Des incendies aux États-Unis également, dans l'État de Washington, où plusieurs centaines de bâtiments ont été détruits et où les autorités ont dû procéder à des évacuations massives. En France, en revanche, une bonne nouvelle. En Gironde, dans le sud-ouest, le gigantesque brasier ne progresse plus et la quasi-totalité des 224 000 habitants et touristes évacués il y a près de 2 semaines vont pouvoir regagner leur logement ou leur lieu de séjour dans la journée. Une situation qui s'améliore, mais plus de 2000 pompiers restent mobilisés. Notre envoyé spécial Pierre-Olivier a suivi une équipe qui traque les points chauds et noie sans relâche chaque départ de feu.
Déjà, il n'y a pas de radio.
Nous embarquons avec le lieutenant-colonel Éric Pitot et ses hommes sur une route forestière. Des deux côtés, des dizaines de milliers d'arbres calcinés, un paysage post-apocalyptique.
La zone la plus critique qui attire le plus notre attention aujourd'hui.
Objectif, chercher et éteindre la moindre reprise de flamme, car sous terre, avec la chaleur, le feu couvre.
Vous voyez, comme ça, à proximité du non-brûlé. Or, aujourd'hui, c'est ça, on ne veut pas. Et donc, on occupe le terrain. Dès qu'il y a des fumerons ou autre, l'idée c'est de lui taper sur la tête.
Taper sur la tête du feu avec de l'eau bien sûr, lance à la main, couvert de suie, le visage noir, ces pompiers font un travail de titan.
On était là tout à l'heure, ça a même brûlé, il y avait des flammes.
Ouais.
Mais il m'a dit au pire on ira après et on va aller taper là dans le verre.
Soudain, le camion de plusieurs tonnes rempli d'eau, sans sable, au milieu des reprises de feu.
Comme vous pouvez le constater, un camion CCF, un camion citerne feu de forêt, qui en fait est dans le sable et s'est ensablé comme s'il était dans le Sahara. Et donc du coup, il a du sable jusqu'à la moitié de la roue et il ne peut pas sortir tout seul. Et donc du coup, ils vont faire une manœuvre de treuillage avec un arbre pour se tirer et s'extraire de cette zone-là.
Le camion s'en sort finalement, retour à la base arrière, une nouvelle équipe arrive, un relais qui continue jour et nuit. Pierre-Olivier, au nord du Cap Ferret, RFI.
Et dans le département de l'Aude, le feu qui s'était déclaré hier près de Carcassonne ne progresse plus là non plus, tout comme dans le département du Var dans le sud-est. Un peu de répit donc pour les pompiers français qui sont éprouvés physiquement et psychologiquement. Un sujet tabou chez les soldats du feu qui consultent peu et préfèrent souvent se parler entre eux. Ses conséquences justement, Laurent Guillotot nous en parle. Il est pompier dans le département des Bouches-du-Rhône et a été dépêché sur l'incendie en Gironde.
Il y a de l'émotion, parce qu'on a tous de l'émotion, qu'on soit jeune, vieux, haut dans le grade ou bas dans le grade, il y a tout le temps de l'émotion. Mais bien souvent, les gens parlent très peu. On arrive plus à évacuer entre nous collectivement que face à des médecins ou des psychologues. Et souvent, le débriefing avec le chef, celui qui commande le camion, il va avoir son importance parce qu'on est entre nous, parce qu'il n'y a pas de regard extérieur. C'est souvent celui-là qui va être primordial. La particularité de ce feu, c'est qu'on provenait tous de casernes différentes. Donc moi, mon camion, je connaissais personne dans mon camion. On s'est connus sur les 11 heures de trajet à l'aller. Le débriefing, on se l'est fait entre nous, sur le trajet du retour. Et au moment du repas, Et discussion, c'est proprement dit sur notre état physique et psychologique. C'est comment te sens-tu? Comment ça va?
Mais vous n'êtes pas suivi par des psychologues pour faire tout ce travail, justement?
Non, très peu. Les gens, ils partent avec leur carapace, ils rentrent chez eux, ils évacuent avec la manière. Moi, c'est le sport. J'ai été courir en colline avec mon chien, ou pris mon vélo, aller faire du vélo et puis se recentrer sur ce qui est le plus important, hein. Ce qu'on me laisse de côté durant la saison estivale pour beaucoup de pompiers, c'est notre famille, et c'est primordial en fait.
Témoignage recueilli par Baptiste Coulon.
Dans l'actualité aussi, Fabrice, les nouvelles accusations du président argentin Javier Milei à l'encontre de son homologue brésilien Lula.
C'est un voleur et un corrompu, voilà ce qu'a déclaré Javier Milei hier, lui qui avait déjà qualifié Lula de menteur et de prisonnier il y a 8 jours, des propos à l'origine d'une crise diplomatique entre les deux pays, et proférés par le président argentin lors d'un meeting de soutien à la candidature de Flavio Bolsonaro à la présidentielle brésilienne, présidentielle qui se tiendra en octobre. Et Lula, lui, est en piste pour un 4e mandat. Il vient d'être officiellement investi lors de la convention nationale du Parti des travailleurs dans une atmosphère de fête à Sao Paulo, Martin Bernard.
C'est au son du rap de Silva, une chanson diffusée en son honneur, que Lula a lancé sa candidature. Chapeau Panama vissé sur la tête, tenue décontractée, il s'est montré en grande forme pour témoigner de sa vitalité malgré ses 80 ans. Devant ses militants, il a promis de porter un soin particulier aux personnes âgées et aux femmes, aux côtés de son épouse Jean-Jean. Autre priorité, le social bien sûr, l'éducation, mais aussi l'augmentation du budget de la défense pour mieux défendre la souveraineté du pays et l'investissement en technologie de l'information. L'ancien syndicaliste a rappelé qu'il se lançait dans la course à la présidentielle pour la 7e fois, une semaine après le lancement de la candidature de Flavio Bolsonaro. Le premier tour aura lieu dans 2 mois et selon lui, cette élection sera véritablement un combat de la vérité contre le mensonge.
Dans ce pays, le mensonge ne va pas l'emporter. Nous n'avons pas le droit de permettre à l'extrême droite de gouverner à nouveau ce pays. Je vous embrasse. Comptez sur moi.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Et puis Cuba a plongé dans le noir ce matin.
Une nouvelle panne de courant s'est déclarée dans la nuit à l'échelle nationale. Frappée par une grave crise économique depuis 5 ans et soumise à un blocus pétrolier américain, Cuba subit régulièrement ce type de coupure.
On termine avec du sport, le cyclisme et le Tour de France féminin qui continue.
Et la néerlandaise Lorena Vibes s'est imposée dans la 2e étape hier à Genève. Et pendant que les meilleures coureuses du monde disputent ce tour, d'autres rêvent de les rejoindre. Ainsi, l'Union Cycliste Internationale a convié hier 14 de ses jeunes talents originaires d'Afrique et d'Amérique du Sud à vivre une immersion au sein du peloton professionnel. Reportage d'Anne Dufort-Cornel.
See how everything is problème de votre radio, c'est quand on écoute, et on est coupé, et on l'entend très mal.
Bah, je sais pas, t'as qu'à acheter un autre poste si ça coupe.
Ah, le poste est très bon. C'est vos émetteurs qui le sont pas.
Ah ben non, le poste est pas bon, parce que c'est pas l'émetteur qui doit faire que ton poste comprend, c'est le poste normalement qui doit comprendre.
Ah, écoute, avec certaines autres radios que la vôtre, ça marche très bien.
Bah, ça veut dire que ton poste comprend les autres radios, mais qu'il ne comprend pas celle-ci.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
Dans la merde, reçoit de la part de celle-ci une poussée verticale, dirigée de haut en bas, égale au poids du volume de la merde déplacée.
Bien des fois le sort décide un tracé pour le train de nos pensées. La rage dans le ventre, on le suit, on se bat pour le faire avancer. Trébuche une fois, fils ici, tu ne pourras jamais te relever. Impossible de songer pour un cœur qui doit y plonger.
Écoute, je ne cherche pas l'excuse aux gosses qui font les cons, qui ne voient pas plus loin que les murs de la zone, bordel. Il doit y avoir une solution, mais je trouve pas laquelle. Alors pardon si j'essaie d'en voir les raisons. Bon, c'est simple, les petits imitent les grands, et les grands pillent, violent, mentent, proposent de la merde à l'écran. De la merde dans l'assiette et en ordonnance. Conscience dans la cave, c'est là que les drames commencent. Ils ouvrent les bras, les ferment pas, récitent les contes. Ceux où quand tu perds ta vie, eux, ils ouvrent leurs comptes. Depuis trois générations, derrière les miradors, dans une cour étroite, les nôtres poussent la fonte, indigo sur les bras. Tableau d'une vie dans la houle, là où le voisin te hait, tu le sais, c'est le oud. Regarde, à coups de matraque et amertume, tranche de vie dure, le peuple est devenu un amas de bris d'individus. Énergie douce, tu fais du vent si t'es un dégain. Vocaliste pourri sur M6 ou TF1. Mais ici, où les néons ne brillent pas, le 13ème, les petits sont sûrs d'être quelqu'un, la main sur les guns. Quand ça sort le feu pour nada, tu veux dire quoi? À quoi ça sert tes pompes Prada? Et s'te plaît, le paradis, ouais, dis-moi où c'est. Tout cœur plongé dans la merde subit une poussée.
Bien des fois le sang dessine un tracé pour le train de nos pensées. La rage dans le ventre, on le suit, on se bat pour le faire avancer. Trébuche une fois, fils ici, tu ne pourras jamais te relever. Impossible de songer pour un cœur qui doit y plonger.
Je ne trouve pas d'excuses à ceux qui ont la haine en eux, qui cherchent des coupables, qui peignent leur peine en bleu. Non, il doit y avoir une solution, mais je trouve pas laquelle. Et surtout pas de séparer l'univers en deux, blanc ou noir, bien ou mal, bon ou mauvais. J'ai vu des humanitaires qui fait les lever, taper dans la caisse comme les voyous du CAC, qui nous fourguent la peur comme des cailloux de crack. Tu rêves de joaillerie, putain, les bijoux de la bac. Ouais, t'avais deux fiancés, mec, fallait faire un choix. Et le bon comme un con, bien sûr, t'as préféré la rue à la fac. Les gants sur les colliers, trapper du foulard d'Arafat. Poignée agrémentée du clic-clac. Les jours filent, la possibilité de bonheur fait tic-tac et s'évanouit. On voulait tous être large, comme le chat d'Iran. Et tracé en coupé à 200, chaque jour chavirant. Ici, Tony a tant d'aspirants. C'est pas un coup de règle, sur le bout des doigts. Violent est le châtiment, et le démon est le seul à glousser. Tout cœur plongé dans la merde subit une poussée.
Bien des fois le sang dessine un tracé pour le train de nos pensées.